7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, faut-il cesser de manger des animaux pour éviter de les faire souffrir? En ce moment, sur les écrans français, le film Petit Paysan, qui raconte le difficile métier d'éleveur de vaches, relance le débat dans une société où les consommateurs sont aujourd'hui largement déconnectés de la terre. Alors, à propos de la viande, on a dit qu'il fallait réduire sa consommation pour des raisons de santé, puis pour des raisons environnementales, parce que l'élevage intensif consomme trop d'eau, trop de pesticides pour le grain qui nourrit les bêtes. Aujourd'hui, la souffrance des animaux, entre autres dans les abattoirs, est devenue le déclic pour certains consommateurs. Ne plus rien manger d'animal, c'est-à-dire être végane. S'agit-il d'une nouvelle éthique que seuls les plus riches peuvent se permettre? Et dans ce cas, quel avenir pour les éleveurs de toute une filière économique derrière? Doit-on se préoccuper de la souffrance animale avant celle des hommes et la relier nécessairement à notre assiette? Et dans ce cas, à quoi pourrait ressembler un monde où l'homme, pour la première fois de son existence sur Terre, ne se nourrirait plus de viande? Les voisins, évidemment, on attend vos réactions, vos témoignages, que vous soyez carnivore, végétarien, vegan, appelez-nous, ou que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71 71. En studio, je vous présente mes invités. Brigitte Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice, porte-parole de l'association L214 que les auditeurs connaissent bien maintenant. Vos vidéos en caméra cachée sur les conditions de vie des animaux dans des élevages intensifs ont fait le tour du net et largement aussi médiatisé, politisé le débat. Et pour ceux qui se posent la question, votre nom L214 fait référence à l'article L214 du Code rural de 1976 où pour la première fois les animaux sont désignés en tant qu'êtres sensibles. C'est bien ça, hein?
C'est tout à fait ça.
Florence Burga, vous êtes philosophe, bonjour.
Bonjour.
Et directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National pour la Recherche Agronomique. Vous avez écrit plusieurs livres sur la condition animale, dont L'humanité carnivore. Étienne Gagneron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveur dans le Cher, 160 animaux, essentiellement des vaches.
Et des poules pondeuses.
Et des poules pondeuses. Et vous êtes aussi vice-président de la FNSEA, qui est la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, le principal syndicat professionnel dans la profession agricole. Et vous êtes au sein de ce syndicat chargé du bien-être animal. Avec nous également un éleveur qui nous a demandé l'anonymat. Lui, nous vous appellerons donc Jean-François, éleveur en Normandie. Pourquoi vous souhaitez rester anonyme ?
Juste parce que je pense porter la voix des éleveurs, mais pas forcément personnalisée sur mon nom, donc voilà.
Vous avez 30 vaches allaitantes limousine. Et 80 porcs sur paille.
Élevés sur paille, en parc, oui.
Ouais. Vous expliquez la petite différence porc sur paille pour...
C'est des modes d'élevage plus alternatifs que l'élevage, on va dire, en grand nombre et sur caillebotis, en bâtiment fermé. Mes porcs sont à l'ambiance naturelle, quoi.
Vous nous appelez les voisins. Je repose la question qui nous intéresse aujourd'hui. Faut-il cesser de manger de la viande pour éviter de faire souffrir les animaux? 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés par les auditeurs. Vous avez évidemment le droit de commenter. Marie-Josée, qui est à Dakar, nous dit: ce n'est pas un débat pour l'Afrique, c'est vraiment un problème de l'Europe.
Alors là-dessus, en fait, il y a une
Brigitte Gauthier en deux mots.
Voilà, il y a une fédération, des associations aussi qui font la promotion d'une alimentation végétarienne ou végane en Afrique. Donc il y a des personnes en Afrique qui se préoccupent aussi du sort des animaux, qui se posent des questions. D'autre part, on a des filières d'export, on l'a montré dans notre dernière enquête vidéo, où on envoie des animaux élevés en France, tués en France, en Afrique, qui déstabilisent aussi les marchés là-bas.
Un autre auditeur, Cher, qui est au Mali, nous dit: chez nous au Mali, une fête sans viande est inimaginable. Esprit, qui lui est à Antananarivo, à Madagascar: personnellement, ça fait un an que j'ai pas mangé de viande de vache parce qu'elle n'est plus à la portée de ma bourse. Aliou est à Douala au Cameroun et nous dit: tout dépend de quels animaux vous parlez, animaux domestiques ou animaux de brousse. Je précise que sur le continent africain, on peut manger les trois: animaux d'élevage, animaux domestiques, on peut consommer du chat, et animaux de brousse, c'est-à-dire animaux sauvages. Armat est à N'Djamena au Tchad: il ne faut pas éprouver de la compassion envers l'animal qu'on tue, sinon ça devient trop compliqué. David est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les lions et les crocodiles n'ont pas pitié de l'homme quand ils ont faim. Et puis il y a le commentaire de Lassana à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. À quoi bon avoir un élevage si la viande n'est pas consommée ? Bienvenue à Abéché, au Tchad, dans un pays où la consommation de viande est très importante, où les éleveurs sont très importants. Si tout le monde devait devenir végétarien, que feraient les éleveurs ? Voilà, des questions placées au coin du bon sens. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, on va y répondre. Et bien sûr, on a aussi envie d'avoir vos témoignages en tant que consommateurs, citoyens, si vous réfléchissez à ces questions.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Quand on parlait viande et santé ou viande et environnement, on était, il y a encore quelques temps, dans une réflexion très raisonnée sur comment diminuer sa consommation de viande. Depuis qu'elle 214, votre association Brigitte Gauthier, dont vous êtes porte-parole, est sur le devant de la scène sur ce débat, on peut dire que le débat s'est radicalisé puisque vous, vous demandez clairement l'arrêt total de toute consommation animale.
Oui, alors je replace, nous on montre ce qui se passe en France aujourd'hui et maintenant dans un pays où on n'est absolument pas en situation de survie par rapport à la consommation de produits carnés ou autres produits d'origine animale. On peut parler aussi de la pêche des poissons. Et du coup, effectivement, en France, on ignore le plus souvent de quelle façon sont élevés, transportés, tués dans les abattoirs ou pêchés les animaux qui sont consommés. On a une image d'Épinal, de ce qui se passe en imaginant de vastes prairies dans lesquelles tous les animaux batifolent. En fait, la majorité des animaux en France sont élevés dans des bâtiments aveugles, des bâtiments fermés, dans lesquels on les fait grandir très rapidement puisqu'on cherche à avoir des produits, on cherche à les vendre. Et l'abattage se fait pour tous les animaux, grosso modo, de la même façon, qu'on soit bio, local, ou industriel, c'est les mêmes modes d'abattage. Et pour nous, c'était important de mettre les informations sur la table, toutes les cartes sur la table, de façon à ce que les consommateurs engagent une réflexion, alors au niveau des consommateurs, bien sûr, mais aussi au niveau politique. C'est vraiment un changement de société qu'on cherche à engager.
Avec vos vidéos qui ont fait le tour du monde, qui ont fait d'ailleurs condamner un abattoir, c'est un outil évidemment redoutablement efficace. Mais pour la première fois aussi, deux militants de L214 font l'objet d'un procès pour avoir pénétré, placé des caméras dans un abattoir à Oudan, dans les Yvelines. Ils sont accusés de violation de domicile, tentative d'atteinte à l'intimité de la vie. Le jugement est renvoyé début octobre. Étienne Gagneron, quelle est l'incidence de l'arrivée sur ce débat, qui était un débat complètement confidentiel et encore pas si longtemps, d'une association comme L214 avec l'étalage des pratiques, de certaines pratiques dans certains abattoirs, et pas seulement abattoirs, il faut aussi parler de l'élevage.
Alors l'arrivée de ces mouvements très extrémistes et radicaux, alors il n'y a pas que L214, hein, il y a d'autres associations qui sont très violentes dans leur discours vis-à-vis des éleveurs et des pratiques d'élevage en général, je dirais, ont amené un débat beaucoup plus accru et dans les médias, évidemment. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette émission à RFI pour le replacer dans un contexte un peu plus mondial et voir que, évidemment, nous, quand on rencontre nos collègues éleveurs africains, en fait, ils comprennent pas le débat. Ils sont pas, contrairement à ce qui a pu être dit auparavant, c'est le débat, il est microscopique dans les pays d'Afrique où l'objectif, c'est quand même d'avoir des cultures vivrières et un élevage vivrier pour tout simplement essayer de manger tous les jours, ce qui est chez nous un peu moins courant. Alors, le débat s'est radicalisé, mais par contre, la baisse de la consommation de viande avait démarré bien avant, puisque dans nos sociétés qu'on peut qualifier de modernes, la baisse de consommation a démarré depuis une bonne vingtaine d'années, régulièrement avec un équilibre nutritionnel sur lequel globalement les consommateurs ont porté plus d'attention.
Notamment donc, nous, à cause du scandale de la vache folle.
Tout à fait, notamment qui date d'une vingtaine d'années. Depuis 1996, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Après, dans cette radicalisation du débat, ce qui vraiment fait beaucoup de mal aux éleveurs, et je pense que mon collègue de Normandie doit être assez d'accord avec moi, c'est qu'on est en fait tout simplement qualifié d'assassin quand on rencontre des militants des différentes associations qu'on a pu évoquer, ou pas directement assassin. Moi, 269 Life m'a qualifié d'assistant à criminel, d'assistance à criminel.
En tant qu'éleveur.
Oui, en tant qu'éleveur, avec des terminologies zoocide, extinction d'espèces.
Il faut préciser qu'en France, un éleveur n'abat pas ses bêtes, hein, c'est interdit.
Évidemment. Tout cela est lié, mais vous l'avez dit aussi, à ce fossé qui s'est creusé avec une population de plus en plus urbaine et des activités d'agriculture en général. Les élevages qui sont complètement déconnectés de cette réalité urbaine. Donc aujourd'hui en France, selon les chiffres INSEE, il y a pas loin de 80% de la population qui est urbaine, définition grande métropole. Et bien sûr,
redécouvre le sujet avec une forte charge anxiogène aujourd'hui.
Le redécouvre avec un angle qui est un angle terrible et terrifiant, puisqu'en définitive, notamment L214 à travers ses vidéos, angle essentiellement sur des actes un peu mal fait, c'est-à-dire que quand vous faites 50 heures de film et vous en extrayez 4 minutes, vous prenez que les mauvais gestes, évidemment ça peut être que destructeur, vous pouvez dire le contraire, Madame Gauthier, évidemment vous ne mettez en avant que les mauvaises pratiques et vous ne mettez jamais en avant tout ce qui se passe bien dans les pratiques d'élevage et toute l'évolution qu'il y a pu avoir autour de la pratique de l'abattage proprement dit, puisque depuis les abattoirs de la Villette et de l'histoire de l'abattage en France, je peux vous dire que les conditions d'abattage...
Qui a démarré tardivement en fait, l'histoire de l'abattage, ça démarre vers 1850.
Tout à fait, pour des raisons sanitaires essentiellement, et notamment le fait de ramener les abattoirs vers les villes pour avoir le contrôle de la force publique, pour justement éviter les problèmes sanitaires et des gens qui étaient malades et qui mouraient après avoir consommé de l'aliment. Donc tout ça fait partie de notre histoire.
On va donner un droit de réponse à Brigitte Gauthier, mais avant je voudrais que Jean-François s'exprime aussi en tant qu'éleveur. Vous, en tant qu'éleveur en Normandie, qu'est-ce que le débat et les méthodes de L214 ont changer dans votre vie d'éleveur?
Alors, dans un premier temps, je dirais que c'est un mal pour un bien. Parce que le fait de mettre le focus sur des pratiques qui, faut le dire, n'ont pas lieu d'être, et que nous, éleveurs, on a aussi dénoncé. Moi, j'ai souvent été dénonciateur du fait que, par exemple, l'éleveur n'allait pas plus loin que l'entrée de l'abattoir, qu'il ne savait pas ce qui se passait derrière,
etc. Il n'y est pas autorisé.
Il y a aussi eu tout le débat de l'abattage rituel qui a déjà un peu de date, mais qui n'a jamais été tranché dans notre pays. Alors que dans d'autres pays, on a fait les choix en disant, voilà, l'animal doit être étourdi systématiquement avant. Donc, je dirais que c'est un mal pour un bien. Et à ce niveau-là, je suis content que ce débat soit sur la place publique. Personnellement, il a incité mes clients que j'ai tous les jours à la ferme et qui viennent chercher leur viande à la ferme, à me questionner sur la question, à se rassurer et justement à faire la démarche de revenir voir le producteur, ce qui était moins prégnant il y a quelques années. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant. Maintenant, je rejoins M. Gagneron. Le fait d'extirper des moments qui sont des moments ignobles et qui n'ont pas lieu d'être et qui doivent être sanctionnés. Et nous, les éleveurs, qui mettons des années à élever bien un animal, quand on s'aperçoit qu'en quelques secondes, tout le bénéfice qu'on a pu faire pendant 3 ans est ruiné par une mauvaise pratique d'abattage, c'est pas normal. Et voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui se passent et qui ne devraient pas. Mais à la fois, ça n'est pas un sujet général, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire une généralité. La majeure partie des abattages se passe bien et moi, je suis capable de rester voir maintenant aujourd'hui.
Reste à savoir si l'abattage peut se passer bien aux yeux de L214, qui revendique plus d'abattage du tout, puisque plus d'animaux élevés pour être consommés. Vous le savez, on ouvre évidemment ce débat aux 7 milliards de voisins. Monique nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Monique.
Bonjour Emmanuel.
Monique, vous êtes à Conakry, en Guinée-Conakry. Vous avez dit au Standard que vous ne vous sentez pas vraiment concernée par les conditions d'abattage, puisque les bêtes ne sont pas abattues de la même manière chez vous. Que voulez-vous dire?
Oui, parce que je disais que cette actualité qui concerne l'abattage des animaux en France n'était pas tout à fait la même réalité en Guinée, je dirais pas généralement en Afrique, mais le cas particulier de la Guinée, je dirais que nous n'avons pas la même relation aux animaux. et que ce ne sont pas des abattages d'une même quantité par jour, ni dans les mêmes conditions, parce que nous n'avons pas d'abattoir moderne. Et aussi, il y a quand même un certain rituel qui, à mon sens,
religieux,
peut donner un peu de respect. Voilà, religieux, qui peut donner un peu de respect à l'âme de l'animal qui est abattu. Parce que quand je prends mes confrères musulmans, pour égorger un animal, celui qui va l'abattre va dire « Bismillah » et va respecter un minimum de choses avant d'égorger l'animal. J'ai vu des personnes, avant d'égorger une poule, qui vont lui donner un peu d'eau, lui servir quelques graines de riz avant de l'égorger. Donc ce n'est pas du tout les mêmes conditions et c'est pas du tout le même environnement ni les mêmes façons de faire.
Merci Monique. Je crois qu'on a bien compris votre point de vue. Il est très intéressant, votre témoignage, surtout de Conakry. Alors un peu d'eau à une poule avant de l'abattre. Pour vous, c'est la dernière cigarette qu'on donne à un condamné, Brigitte Gauthier. Ça revient à la même chose?
Moi, je pense qu'effectivement, enfin, les conditions d'abattage sont très différentes, en tout cas en dehors de l'Europe et des pays occidentaux. Et ailleurs, on peut déjà parler du nombre d'animaux qui sont tués. En France, on tue 3 millions d'animaux terrestres par jour et plusieurs dizaines de millions de poissons. Le dernier abattoir dont on a montré quelques images, c'était 185 000 poules par jour, 240 poules. À la minute, donc non, pardon, à l'heure.
Vous parlez d'une industrialisation de la mort, c'est ça que vous voulez dire?
À la minute, c'est 240 à la minute.
240
poules
à la minute.
On est vraiment sur des quantités d'animaux qui sont tués extrêmement importantes. Après, on nous parle souvent à L214, on est radicaux, on est extrémistes. Alors effectivement, on sort tout le monde de la zone de confort. On pose la question de est-ce que c'est bien légitime de faire tuer des animaux alors qu'on peut très bien s'en passer.
Pour se nourrir.
Nous, on est sur un mouvement plutôt bienveillant, justement, qui essaye d'étendre la sphère de considération morale aux autres animaux qui sont aussi des êtres doués de sensibilité.
Vous souhaitiez répondre à Étienne Gagneron qui disait
c'est que des petits moments.
Vos images ne montrent pas la réalité totale.
Si la réalité, il y avait... Alors, deux choses. Déjà, c'est des tout petits moments courts, 4 minutes. Non, c'est pas vrai. Sur notre site, vous pouvez cliquer et voir plusieurs heures de vidéos.
Les films font 4-5 minutes et ils ont été extirpés d'une cinquantaine d'heures d'enregistrement.
Sur le site, il y a beaucoup plus que ça.
On sait très bien comment vous fonctionnez.
Allez voir sur le site. Ensuite, est-ce que c'est une généralité ou est-ce que ça l'est pas? Il y a une commission d'enquête parlementaire qui, suite à nos images, s'est mise en place pour essayer de faire la lumière sur les pratiques en abattoir. Ils ont détecté pas mal de choses. Il y a 65 mesures qui ont été proposées pour essayer d'améliorer les choses. Donc, il y avait bien une situation qui était critique. Et surtout, les contrôles qui ont été demandés par Stéphane Le Foll, à l'époque ministre de l'Agriculture, dans tous les abattoirs d'animaux de boucherie, donc 263 abattoirs sur les presque 1000 que compte la France, ont montré que 80% des chaînes d'abattage présentaient des non-conformités allant de mineurs à majeurs. Donc, ce qu'on a montré, c'est absolument pas l'exception qui confirme la règle, mais c'est plutôt la règle.
Votre militantisme ne concerne pas que l'abattage, mais également l'élevage, c'est-à-dire les conditions d'élevage, la contention des animaux qui ne peuvent pas bouger dans des périmètres, dans des cages extrêmement étroites.
Florence
Burga, en tant que philosophe, quand des militants de la cause animale en arrivent à comparer les élevages à des camps de concentration nazis, on en est où de l'histoire de l'humanité d'un point de vue philosophique ?
Votre question est un peu compliquée. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Gagnon tout à l'heure à propos du zoocide, etc. Évidemment, si on reste à l'intérieur de notre mode de pensée qui considère que les animaux sont de la viande, tous ces termes vont sembler totalement inappropriés, totalement inadéquats, totalement délirants. Si on se réfère simplement à ce que le législateur a aujourd'hui inscrit dans les textes. Donc, en effet, en 1976, pour la première fois, cette mention de la sensibilité qui aurait donc dû entraîner certaines conditions de détention des animaux, et maintenant son inscription dans le Code civil.
On va y revenir. On est d'accord, il y a un long cheminement. Vous restez avec nous. Bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Une pause pour le flash, 3 minutes, et nous poursuivons le débat. A tout de suite.
7 milliards de voisins. On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Devons-nous cesser de manger des animaux pour éviter de les faire souffrir? Le débat est ouvert depuis le début de l'émission avec Étienne Gagneron, vice-président de la FNSEA et chargé du bien-être animal, également éleveur. Jean-François, éleveur en Normandie. Brigitte Gauthier, cofondatrice et porte-parole de l'association L214, les fameuses vidéos qui circulent sur Internet et qui montrent une réalité dans les abattoirs et dans les élevages intensifs. Florence Burga, philosophe, directrice de recherche à l'INRA, Institut National pour la Recherche Agronomique, auteur de L'Humanité Carnivore. Voilà, vos points de vue, vos pratiques alimentaires nous intéressent. Où que vous soyez dans le monde, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Vous êtes nombreux à avoir vu ces vidéos de l'association L214. Ça a provoqué beaucoup de déclic dans la consommation de viande de certains citoyens. Gabriel nous dit, moi je mange des animaux, c'est vrai, mais je penche de plus en plus vers le régime végétarien. Je n'aime pas voir les animaux souffrir et j'aimerais donc que la manière dont ils ont été tués soit réglementée pour moins de souffrance. Elle est réglementée en France, hein, je m'adresse à la FNSEA.
Non, mais tout à fait. Et en plus, nous, on est vraiment pour une démarche de progrès continu. Il y a effectivement dans les abattoirs et à certains niveaux de certaines filières des progrès à faire importants encore. Mais toutes les filières sont engagées dans une démarche de progrès. Et quand on parlait de la commission de l'Assemblée nationale sur l'abattage, un certain nombre des préconisations du député de La Rochelle nous vont relativement bien. Nous, on est d'accord pour qu'il y ait des caméras dans les abattoirs, même si les syndicats de salariés sont contre. On considère que ça peut être intéressant pour justement mettre le point sur des zones où ça fonctionne mal, où il faut améliorer les choses dans le respect des animaux. Donc nous le problème, c'est que la démarche radicale qui oppose complètement nos modes d'élevage, nos modes de consommation, en disant il faut tout supprimer, est une démarche extrêmement violente vis-à-vis d'éleveurs qui ont déjà des conditions de travail et de vie permanentes qui sont très difficiles. Je rappelle quand même que dans ma région, en 2016, le revenu moyen par exploitation annuelle, il est de 3 500 € pour une année. Donc quand des gens sont déjà dans des conditions difficiles et qu'ils essayent malgré tout de faire des efforts permanents et qu'ils sont stigmatisés en permanence en disant il faut arrêter de faire de l'élevage. Donc quand on dit il faut arrêter de faire de l'élevage, comme le dit Brigitte Gauthier ou même Florence Burga, il faut savoir ce que ça veut dire dans l'esprit de l'agriculteur. Ça veut dire tu ne sers à rien, ton métier ne vaut rien, il faut que tu fasses autre chose. Alors j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il faut que les éleveurs se reconvertissent en production végétale. Il y a en France des millions et des millions d'hectares de prairies qui sont dans des zones où on ne peut faire que de la prairie. C'est pour ça qu'il y a encore de la prairie, c'est pour ça qu'on a la chance d'être un grand pays d'élevage. Toutes les zones montagneuses, vous avez vu le Tour de France. Les images tournées par hélicoptère pendant le Tour de France sont somptueuses. Pourquoi ? Parce que sur la moitié du territoire français, il y a des prairies qui aménagent le territoire. Et s'il n'y avait pas ces prairies avec des animaux, des ruminants, des moutons, des vaches, il n'y aurait plus cette
beauté. Le paysage français est un paysage agricole.
Et c'est essentiellement un paysage d'élevage. Très clairement, sur la moitié du territoire.
Juste ajouter un détail. Que tous les véganes arrêtent d'aller au sport d'hiver.
Alors les véganes, c'est ceux qui ne mangent donc aucun produit issu de l'animal. C'est pas seulement
aucun
végétarien,
c'est-à-dire
on ne boit pas de lait.
Les paysages de montagne, les pistes de ski sont uniquement liés à la présence de l'élevage. Si on arrête la consommation de lait, la consommation de viande, qu'est-ce qui va entretenir ces zones-là? On n'ira pas envoyer des emplois aidés avec des débroussailleuses, c'est pas possible.
Brigitte Gauthier.
ça me fait sourire en fait un petit peu parce que
pourtant c'est pas très drôle.
C'est, alors d'une part c'est pas drôle.
C'est
je vous rejoins sur le fait que aujourd'hui la plupart des éleveurs et des ouvriers d'abattoirs ont des conditions de travail extrêmement difficiles pour des revenus très bas. Donc on est sur un système effectivement qui marche sur la tête où des gens ruinent leur vie à ruiner d'autres vies. Sur les
celles des animaux.
De ski. Ben voilà, mais c'est des êtres humains qui enfin, ne vivent pas.
Non, ce ne sont pas des êtres humains. Les animaux ne sont pas des êtres humains.
Alors, c'est vous qui participez à la.
Ce sont des êtres vivants.
Alors, je vais revenir sur le rôle de la FNSEA majeure dans l'industrialisation de l'élevage, qui a détruit beaucoup plus d'emplois que si on arrêtait du jour au lendemain. d'élever des animaux aujourd'hui. D'autre part, c'est une vision un peu archaïque, un peu passéiste de dire bah, si on ne mange pas les animaux, alors il n'y en aura plus dans les prairies et on ne saura plus quoi en faire. Justement, ce qu'on essaye de provoquer, c'est une réflexion ensemble de façon à pouvoir vivre
animaux. Je suis désolé, c'est pas vrai. Vous dites pas on va faire une réflexion ensemble. La parole des éleveurs a toujours été enlevée depuis le début de ce débat, notamment dans la plupart des médias. Donc merci à RFI de nous donner la parole. Pour une fois,
alors,
il y a deux éleveurs.
Vous aviez la réputation de ne pas vouloir venir.
Non,
vous,
jamais,
les éleveurs,
jamais.
Face
c'est
à L214.
C'est pas vrai.
Face
que ce soit au Sénat ou ailleurs.
L214 a déclenché une terreur quand même.
Non, vous pouvez pas dire ça. Il y a des éleveurs.
En tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui.
Il y a des éleveurs qui ont peur parce qu'il y a une pression aussi qui se fait sur les territoires. C'est-à-dire qu'il y a des éleveurs qui reçoivent des messages anonymes en leur disant on va venir brûler ta ferme et tout.
Bien sûr,
voilà, il faut le savoir. Ça, c'est le quotidien d'un certain nombre.
Je pense que ça vient plutôt de voisins éleveurs.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Et puis en plus, c'est pas le message qui est véhiculé.
Vous pouvez pas dire ça.
Il
faut arrêter, Madame Burga, de dire des choses qui sont complètement fausses. Nous, on le sait très bien. Moi, j'ai fait l'émission sur France Inter avec Philippe Bertrand. J'ai reçu 3 courriers anonymes.
Qu'est-ce que vous...
Parce que j'ai parlé d'un centre d'engraissement dans la Creuse où il y a 40 éleveurs qui sont associés pour engraisser des animaux.
Mais combien on en
reçoit? Je reçois
aussi
des courriers anonymes de gens qui n'ont même pas le courage de signer pour me dire.
Qu'est-ce que vous répondez à nos auditeurs? Qu'est-ce que vous répondez à nos auditeurs africains? Je lis le message d'Horus, un voisin qui est à Lomé au Togo, qui dit: moi, j'aimerais qu'on arrête la généralisation. On n'a pas ce type d'industrie en Afrique. Chez nous, tu as ton petit élevage et de temps en temps, tu prends un animal pour nourrir la famille ou pour les grandes occasions. Ce qui se passait autrefois à la ferme en France, en fait, finalement. Alors, pour L214, la souffrance animale est la même, le débat reste le même ou pas?
Alors, le débat est un petit peu différent parce que en Afrique, on n'a pas la même disponibilité alimentaire qu'en France aujourd'hui. D'autre part, en Afrique, là, ce monsieur parle d'un animal qu'il va aller chercher lui-même. Alors, pour l'animal, du point de vue de l'animal, ça change malheureusement pas grand-chose. Il est mort à la fin. Mais dans les dernières images qu'on a montrées, c'était des poulets export, c'est-à-dire c'est des poulets qui sont élevés en élevage industriel en France, un bâtiment de 30 000 poulets, des poulets de souche à croissance rapide, avec une alimentation optimisée pour les faire grandir le plus rapidement possible, qui sont envoyés sur le marché africain là-bas. Donc en fait, ils mangent aussi les animaux qui sont élevés ici. Donc, cette question, elle se pose quand même. Il y a deux questions, en fait. Il y a la question de qu'est-ce qui est acceptable aujourd'hui dans les conditions d'élevage et d'abattage. La plupart des gens sont opposés aux conditions d'élevage qui sont majoritaires en France. On est à plus de 80% d'élevage en France.
Vous dites, rien n'est acceptable, en fait.
Et en deuxième question, il y a la question de la légitimité de continuer à tuer des animaux alors qu'on pourrait faire autrement. Et là, ça se base sur des connaissances scientifiques aujourd'hui en éthologie, en sciences cognitives. On s'appuie sur des réalités scientifiques et pas sur l'archaïsme. On a fait ça depuis très longtemps, etc.
Jean-François, éleveur en Normandie. Qu'est-ce que vous répondez? Quel est, vous, le lien que vous entretenez avec vos bêtes, dont vous savez que, évidemment, elles sont élevées, même si c'est dans les meilleures conditions possibles? Vous élevez des porcs sur paille, donc, non pas sur caillebotis d'acier, et des vaches.
Bâton, oui.
Voilà. Quel est le lien que vous entretenez avec vos animaux qui sont destinés à l'abattoir?
Moi, je ne suis pas issu d'une famille agricole. J'ai fait ce choix de métier vraiment par vocation et d'abord par amour des animaux. Mais il faut être réaliste. C'est-à-dire que souvent, quand on dit j'aime mes animaux, mais je les emmène à l'abattoir, il y a des gens pour qui ça représente une schizophrénie. Non, pas du tout. La vie, c'est un cycle. On essaye qu'ils naissent dans de bonnes conditions, qu'ils soient élevés dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut bien redire que si on arrivait un jour à un monde sans élevage, il y a effectivement plus d'animaux. On a toutes les races de chevaux lourds. Quand on n'a plus besoin des chevaux lourds, on a énormément de races qui ont disparu. Aujourd'hui, moi j'élève des ânes, des grands noirs du Berry. Les grands noirs du Berry, il n'y a plus que moins de quelques centaines d'ânes.
Ils ne sont pas destinés à l'abattoir et à être consommés.
Donc l'argument d'L214, disons, on peut garder des animaux dans d'autres conditions parce qu'on continuera de les avoir. Non, c'est faux. Ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'il y aura quelques petits collectionneurs, mais globalement, la ressource génétique, tout ce patrimoine culturel, tout ce patrimoine vivant qui existe aujourd'hui grâce aux éleveurs
n'existe que parce que nous en mangeons.
Mais parce que nous en mangeons, évidemment, parce qu'il y a une logique économique.
Juste un petit mot là-dessus, par rapport aux conditions de mort, dignes ou pas dignes.
Parlez bien devant le micro.
Digne ou pas digne, on peut aussi considérer que les animaux domestiques qui sont maintenus dans des soi-disant centres de retraite dans la plupart des cas, meurent dans des conditions bien plus atroces que s'ils étaient abattus et tués dans un abattoir. Moi, je suis désolé, je vois des centres qui recueillent des dizaines et des dizaines de chevaux qui sont à des âges assez avancés. On essaye de les maintenir en vie, ils sont mal entretenus, ils ont des sabots qui font 15 cm de long, c'est véritablement catastrophique. Le fait de les tuer à un moment donné et d'utiliser la peau, la corne et tout, en termes de réflexion et d'économie durable, c'est peut-être archaïque pour Madame Gauthier, n'empêche que ça fait partie d'une vraie économie qui est durable, puisque je rappelle quand même que même dans la stratégie agroécologique du ministre de l'Agriculture qui a été évoquée tout à l'heure, la remise en œuvre de systèmes polyculture-élevage, c'est-à-dire associés de l'élevage et de la culture, est une source d'agriculture durable pour l'avenir. C'est un des seuls moyens pour des régions qui sont trop spécialisées en culture végétale. Donc il faut arrêter de dire que c'est pas possible. Nous, la profession agricole, on est dans une démarche de progrès. Mais comment peut-on demander à des acteurs de filières de faire des progrès en les stigmatisant en permanence? Je pense que ce n'est pas le vivre ensemble, ça. Qu'on nous demande de faire des efforts, qu'on nous demande d'améliorer les pratiques, on est d'accord.
Néanmoins, la sensibilisation de l'opinion via des méthodes radicales telles que celle de L214 a provoqué un électrochoc qui fait qu'aujourd'hui, tout de même, l'anxiété dans le monde de l'élevage fait qu'on fait plus attention ou pas?
Non, je pense pas. Je pense qu'on met des gens dans des situations telles que soit ils arrêtent le métier. Alors je vais pas aller dans
des extrêmes. Il y a quand même la peur de la condamnation, quand même, en justice.
Écoutez, il faut imaginer que des gens qui sont dans des conditions économiques déjà difficiles, qui ont un métier qui est prenant, c'est-à-dire c'est 10-12 heures par jour.
Sans parler du risque des épidémies également, hein, qui sont extrêmement complexes.
L'aspect sanitaire, la réglementation qui est extrêmement complexe en France, c'est-à-dire que l'identification d'un animal, d'un bovin, moins de 7 jours. Après sa naissance, vous devez l'avoir notifié. Donc il y a un suivi qui est quand même très très fort. Et l'ensemble, en plus de toute cette réglementation et de ces conditions de travail très difficiles, vous avez tous les jours dans les médias des gens qui vous disent « Votre métier est fini, il faut arrêter, tout ce que vous faites est mal, vous servez à rien. »
Je vous cite le message d'un auditeur qui nous écrit d'Abidjan, là, dont on vient me faire parvenir son message. « En plus de lutter pour le bien-être de l'animal, le mouvement L214 fait un choix de vie qu'il souhaite imposer à tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Si c'est le mode d'élevage et d'abattage qui est mis en cause, alors trouvons de meilleures méthodes sans chercher à interdire de façon pure et simple l'abattage en France. » Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
Pour se parler.
7 milliards sur Twitter, c'est 7 milliards RFI. Et c'est aussi sur Facebook. Pour nous écrire, 7milliards@rfi.fr.
Nous sommes en ligne avec Aboubacar qui nous appelle de Conakry. Bonjour Aboubacar, soyez le bienvenu.
Ouais, bonjour madame, vous allez bien?
Très bien, on va très bien, on est ravis de vous accueillir, on vous écoute.
Ouais, c'était à propos d'un coach que mon père m'a envoyé comme un don là, vraiment, du village.
Un coq, c'est bien ça Aboubacar, la ligne n'est pas très bonne au téléphone.
Exactement, c'était un coq là, ouais.
Oui?
Ouais, vraiment, le coq était avec mon père, il a envoyé du village pour m'offrir. Le coq était un peu petit à ce moment, j'étais vraiment d'accord. À chaque moment, je m'approchais du coq, je donnais de la nourriture. Il était d'accord, on descendait ensemble, et du coup, même moi, après qu'il était dans ma chambre, on faisait tout, vraiment, j'étais d'accord avec lui.
Ah oui.
Et le coq était grandi, mon père avait dit de sacrifier le coq.
Et vous avez refusé de le sacrifier parce que vous aviez quoi? Tissé un lien avec le coq qui était devenu un copain, c'est bien ça?
Vraiment, le coq était devenu comme un vrai ami à moi. Mmh.
Et est-ce que c'est celui qu'on entend sur la ligne téléphonique là à côté de vous ou pas du tout? Parce que j'entends un caquettement à côté de vous.
Bon, ouais, je me suis déplacé.
Non, mais c'était pas un reproche. C'était pas un reproche, Aboubacar. Je voulais savoir si votre meilleur ami était à côté de vous.
Non, il y a personne. Non, le coq n'est pas à côté de moi.
D'accord. Et donc, alors, finalement, aujourd'hui, comment vous situez-vous par rapport à la souffrance animale et à la consommation de viande?
Vraiment, quand je pense à mon animal, là, je pourrais dire vraiment ça touche à mon cœur, vraiment. Parce que quand tu vois la manière dont tu es habitué avec un animal et qu'on te dit de tuer l'animal, là, vraiment, c'est comme si... on est là, tu es ton ami là, quoi. Parce que moi, j'étais tellement d'accord avec toi, qu'on était tout le temps ensemble, et tout encore.
Mais comment dans la famille vous êtes perçu, Aboubacar, si vous êtes sensible à la souffrance animale?
Oh, vraiment, la famille, à la fin, ils m'ont vraiment reconnu que je suis vraiment tout le temps d'accord avec les animaux. Mmh.
D'accord. Vous n'êtes pas condamné par votre entourage. Merci de nous avoir appelé. Désolé, la ligne téléphonique est mauvaise, on ne peut pas poursuivre. Nous sommes également en ligne avec également Amadou, qui nous appelle également de Conakry. C'est le rendez-vous des Guinéens aujourd'hui. Nous vous écoutons, Amadou.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous vos invités. La consommation de la viande en Guinée est une chose quotidienne. Et donc, il est obligé de jouer par les différentes familles. Mais vous remarquerez au Sanguiné, ceux qui consomment plus de la viande sont issus des familles riches, si vous le dire, comme ça. Et surtout, moi, de mon côté, j'aime beaucoup de la viande. J'adore beaucoup la viande. Mais seulement que le problème, j'aime pas voir les animaux souffrir. Et donc, dans ma famille, par exemple, quand on me dit dégorger un porc ou bien dégorger un animal qui est un porc, je n'accepte pas. On me dit, mais écoute, pourquoi toi, tu ne veux pas égorger un animal? Je dis, non, je n'ose pas.
Vous êtes dans cette ambivalence. Vous aimez consommer de la viande, mais vous vous sentez dans cette ambivalence. Vous n'êtes pas le seul, hein, là. Ce n'est pas une spécificité africaine. C'est une discussion qui a régulièrement lieu en France, Brigitte Gauthier.
Oui, c'est ça. En fait, on est une société tout à fait paradoxale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire maltraiter et tuer sans nécessité. Et on fait tuer 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs et des dizaines de millions de poissons. Voilà. Je voulais revenir sur la biodiversité.
Vous êtes anti-pêche également, il faut bien le préciser. Hein,
les poissons sont aussi des êtres doués de sensibilité. Et puis en plus, on a la question des océans qui se pose en entier. Je voulais revenir sur cette question de la biodiversité qui serait entretenue aujourd'hui par l'élevage. On est sur la sixième extinction des espèces, ça s'accélère beaucoup. Et en élevage, en fait, il n'y a pas beaucoup de biodiversité. Les animaux ont été sélectionnés pour les plus rentables et tout ça. Et on a effectivement beaucoup d'espèces qui ont disparu au fur et à mesure parce que jugé bien moins rentable que d'autres. Quoi.
Beaucoup de races.
Sur l'aspect culturel du paysage français, pour revenir au patrimoine culturel français qui est largement dominé par l'agriculture.
Alors, enfin, je pense que...
Mais Brigitte Gauthier, là-dessus, là, c'était votre argument.
Oui, mais tout à fait. Mais
à quoi ressemblerait la France sans animaux d'élevage?
Ce qui est dit est complètement faux, donc, pour nous déjà. Alors, ce qui est qualifié d'archaïsme par certains, c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de développement durable, des pistes d'avenir sur la réintroduction de systèmes plus équilibrés agronomiquement avec la présence d'animaux, puisque je rappelle quand même qu'il y a un échange végétaux-animal, notamment l'utilisation des fientes, ce qui se fait partout dans le monde, autour des systèmes vivriers, mais aussi en France. Et je voulais rajouter simplement qu'en termes de paysage, ça maintient aussi des systèmes d'exploitation à taille humaine. C'est-à-dire que vous pouvez assez difficilement, par exemple un couple, quand il a plus d'une centaine d'animaux, ça devient compliqué à gérer. Et si vous êtes sur des systèmes uniquement à base de végétaux, et notamment en grande culture, dans certaines zones de l'Europe, vous pouvez avoir des fermes qui font des dizaines de milliers d'hectares. C'est quand même plus compliqué en élevage. Et en plus, on a la chance en France d'avoir quand même une majorité, on l'a dit tout à l'heure par rapport à la taille des élevages laitiers, hein, qui sont autour de 50 vaches, on a la chance d'avoir un type d'élevage à taille familiale. Et l'enjeu, c'est de le maintenir, de le préserver pour éviter justement d'avoir une dérive encore plus forte sur des systèmes beaucoup plus industriels. Et je pense que le débat qui a lieu, porté par un certain nombre d'associations anti-viande et anti-élevage, ne nous aide pas à maintenir ce système.
Il nous dessert complètement.
Il devrait nous aider, parce que sur l'évolution des pratiques, on est d'accord sur le fait d'améliorer en permanence les conditions d'élevage et les conditions d'abattage. Nous, on est d'accord pour que l'élevage, pour que l'abattage rituel, dans les conditions auxquelles il est pratiqué aujourd'hui, il soit interdit et qu'on y ait une obligation d'étourdissement.
On donne la parole à un auditeur, Balker, qui nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, Balker.
Bonjour, Madame Emmanuel. Bonjour à tous les invités.
Alors, vous vous prononcez très clairement contre la souffrance animale dans les abattoirs. Mais qu'est-ce que vous proposez exactement?
Oui, Madame, il est inacceptable de voir les images qui se trouve sur Internet, où vous avez une vidéo, les animaux dans l'abattement, dans les abattements sont assistés. Et donc, moi, je propose, madame, que l'on puisse insérer dans cette législation, notamment dans nos États et partout ailleurs, un système de pouvoir hypnotiser les animaux avant de les abattre.
Hypnotiser un animal. D'accord, ça c'est votre proposition. Merci Balker. De quoi s'agit-il exactement, Brigitte Gauthière?
J'en ai jamais entendu parler.
C'est vous les spécialistes. C'est l'étourdissement, j'imagine, mais j'ai pas tout à fait compris les propos. Mais je pense que c'est ça. C'est plus autour de l'étourdissement qui est quand même une notion très très importante.
Aujourd'hui, la réglementation, que dit-elle exactement pour éviter la souffrance de l'animal au moment de l'abattage?
La difficulté, c'est la dérogation pour l'abattage rituel.
Non, et puis elle dit qu'elle a des techniques aujourd'hui qui permettent de réduire, de limiter la souffrance des animaux, mais pas de l'enlever complètement. Enfin, c'est illusoire de penser que les animaux ne vont pas avoir peur, ne vont pas stresser dans les abattoirs. Ça, c'est pas possible. Sur les élevages à taille humaine et tout ça, moi, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, d'ailleurs, parfois avec le soutien de la FNSEA, on a l'élevage des 1000 vaches qui se développe, l'élevage des 4000 bovins en Saône-et-Loire,
les 1000 veaux. C'est pas un élevage, c'est un centre d'allotement où les animaux seront présents 2 mois par an.
Je voudrais lire.
C'est
un élevage, c'est une forme d'élevage. On n'appelle pas un élevage, on appelle ça l'engraissement. On
ne va pas appeler gavage. Les animaux résident sur une période temporaire. Un élevage, c'est des animaux qui sont en permanence et qui sont dans un cycle de production. C'est pas la même chose.
Florence Burga, je voudrais vous lire le message de Mohamed à Niamey qui nous dit: nous sommes en pleine contradiction de l'Occident. Vous donnez de la valeur à ce qui ne doit pas en avoir. Les animaux sont des choses de la nature. Elles ont été créées pour le bien-être de l'homme. C'est quoi cet humanisme qui ne se manifeste que lorsqu'il s'agit de non-humains? Il fait référence notamment à l'indifférence aux sans-abri qui meurent de faim dans les capitales occidentales. Que répondez-vous en tant que philosophe? Vous avez réfléchi à ces questions-là.
Que je réponde à ça, de dire que les animaux ont été créés pour qu'on s'en serve, enfin, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Je crois qu'on ne peut pas s'entendre si d'un côté les gens parlent de viande, de patrimoine culturel, etc., de pratique, et puis d'un autre côté, la question radicale, c'est-à-dire qui va à la racine, qui s'interroge sur qui sont les animaux, qu'est-ce qu'on leur reconnaît, qu'est-ce que l'éthologie cognitive, et bon. Et le législateur aussi leur reconnaît la disposition non seulement à ressentir la douleur, à souffrir, à avoir de l'angoisse, à avoir une vie psychique. Le dialogue est un dialogue de sourds, dans la mesure où pour ceux qui se préoccupent des animaux en tant qu'individus, la question de les engraisser et de les mettre à mort se pose complètement, c'est-à-dire pourquoi le faisons-nous dans la mesure où nous n'en avons pas besoin, et de l'autre côté, des gens qui disent c'est notre métier, nous voulons certes essayer de le faire le mieux possible, mais c'est un dialogue de sourds. Voilà.
Je suis d'accord avec Florence Burga sur le fait que c'est un dialogue de sourds.
On ne parle pas de la même chose du tout.
Non, enfin, sauf que quand vous dites ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens, enfin, vous le rappelez vous-même, les éleveurs c'est leur métier, c'est avec ça qu'ils vivent, comme vous avez un métier et vous touchez un salaire.
Oui.
Si l'éleveur il arrête de faire ça, malgré les mots de conversion ou de reconversion, il aura beaucoup de mal à retrouver une autre activité.
Est-ce que c'est la meilleure réponse, l'argument économique contre la souffrance animale ou pas d'ailleurs?
Ce n'est pas la meilleure réponse, mais on ne peut pas dire votre métier est fini, votre métier n'a pas de sens.
On parle de transition sur plusieurs générations.
Une question intéressante d'un auditeur, Nelson, qui est au Togo, nous dit: mais si c'est un meurtre quand on abat un animal, pourquoi n'en serait-ce pas un quand on arrache une plante? Beaucoup d'auditeurs ont soulevé cette question-là du végétal. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller, les L214? Sur l'espèce vivante douée de sensibilité.
Le cri de la carotte nous interpelle.
Le cri de la carotte, beaucoup.
Mais ça devient, hélas, un véritable argument. C'était une plaisanterie, ça devient un véritable argument sur lequel je vais travailler d'ailleurs maintenant.
Parce qu'il y a aussi
maintenant.
Des sciences qui prouvent que les arbres ont des communications entre eux, etc. Donc,
alors que c'est un vocabulaire analogique.
Voilà, quand on mange des animaux, on mange beaucoup plus de plantes, en fait, puisque pour faire grossir, pour engraisser les animaux, on va leur donner des plantes. Donc quand vous mangez végétalien, vous mangez bien moins de plantes, finalement, que quand vous mangez des animaux. Donc si on cherche à avoir le plus petit impact possible, à ce moment-là, c'est encore l'alimentation végétalienne qui permet d'avoir un impact.
Sauf que ça, c'est complètement faux, parce que les ruminants mangent des végétaux que les humains
ne seraient pas valorisés.
L'herbe. Voilà.
Oui, enfin, et deuxièmement, il faut quand même redire qu'une alimentation végétalienne, si elle peut s'entendre encore pour quelques adultes avec des modes de vie assez définis, pour des enfants, on va à des catastrophes.
C'est-à-dire ce n'est pas vrai.
C'est aujourd'hui...
Alors là, c'est un débat médical, on ne va pas le faire ici, on va le faire chez Priorité Santé.
De sites et de réseaux sociaux, des sites végans, des mamans qui s'inquiètent de l'état de la dentition de leurs enfants. Donc, il faut être un peu honnête, quoi. On ne peut pas avoir une croissance normale sans avoir recours à des complémentations de B12, etc. Et on va à des catastrophes.
Les animaux sont complémentés aussi en massif, quoi. Non, il y a beaucoup d'enfants qui sont végétaliens, qui étaient des bébés et qui sont devenus de très grands enfants maintenant.
Vous demandez concrètement un statut juridique de l'animal ou pas à L214, Brigitte Gauthier?
Oui, on peut demander un changement du statut juridique, puisqu'aujourd'hui,
avant de révolutionner l'alimentation,
des biens. Mais ce qu'on demande surtout, c'est effectivement déjà éliminer les pratiques les plus cruelles. On est d'accord sur l'abattage sans étourdissement, par exemple. Mais il y a d'autres pratiques comme l'abattage avec l'étourdissement.
Vous êtes d'accord, mais vous
ne
le mettez pas souvent en avant quand même. Hein.
On n'a encore jamais vu
de vidéo.
Vous ne regardez pas toutes les
sites. C'est à la profession quand même de le faire.
Et la profession peut avancer dessus. Et là-dessus,
vous rendez hommage à certaines pratiques, c'est ça?
Non, on va essayer d'éliminer déjà les pratiques les plus cruelles. L'élevage en cage des poules pondeuses, cage qu'on appelait d'ailleurs cage bien-être, c'est dire si on est un peu cynique quand même dans l'utilisation des mots. On peut aussi souligner l'élevage des lapins qui se fait 99% en cage. Les animaux qui n'ont aucun accès à l'extérieur, aujourd'hui il reste quelques animaux à l'extérieur, mais la grande majorité des animaux sont élevés sans avoir d'accès à l'extérieur.
Pour les monogastriques, c'est complètement faux, pour les polygastriques.
Étienne Gagneron,
moi je voulais juste rappeler que on est aussi victime, et là je pense que d'un système de la distribution des produits alimentaires depuis une quarantaine d'années qui a tout fait pour aller vers le prix bas, qui a emmené justement des systèmes de production relativement intensifs.
Et les dérives que l'on connaît dans l'élevage.
Mais tout à fait, mais la difficulté, c'est que sur ce sujet de bien-être animal, très souvent, on oublie de parler du prix du produit.
C'est-à-dire merci à vous tous. Prix, merci Étienne Gagneron, vice-président de la FNSEA, Jean-François Éleveur en Normandie, Brigitte Gauthier, cofondatrice et porte-parole de l'association L214 et Florence Burga, philosophe, directrice de recherche à l'INRA. À demain, les voisins et les voisines.